Voilà, c'est parti. Donc, le mystère pascal, première partie, la passion de Jésus-Christ. Donc, la dernière fois, vous vous souvenez, on avait parlé de l'incarnation et nous avions vu que l'incarnation est l'acte par lequel Dieu se manifeste. Ça fait partie, l'incarnation fait partie de la révélation de Dieu. Mais que dans cette incarnation, Dieu se fait connaître en personne. Il se donne lui-même à connaître en sa personne. Donc le but de cet acte, eh bien, c'est le salut, c'est le fait de sauver les hommes. C'est pourquoi l'incarnation doit être liée au salut, à la rédemption. Et le théologien protestant, grand théologien Karl Barth, est celui qui a fait le lien, enfin je pense qu'il n'a pas été le seul, mais en tout cas qu'il a exprimé comme ça, l'incarnation est déjà en soi l'acte de rédemption. Donc le salut est inscrit, on pourrait dire, dans cet acte d'extériorisation de Dieu, le fait qu'il se donne dans le monde et qu'il se donne en personne. Donc cette incarnation, on avait vu qu'elle fait partie de la révélation et qu'en plus elle révèle la puissance d'un Dieu. Mais on va voir avec le cours aujourd'hui que cette puissance d'un Dieu qui se donne et qui s'incarne, eh bien, est aussi, pas simplement une puissance, mais aussi la faiblesse d'un Dieu. Alors quand je dis faiblesse, ça ne veut pas dire qu'il est faible, mais d'un Dieu qui accepte de se faire le plus fragile et le plus faible en prenant la nature humaine. Donc cette fragilité, on peut dire qu'elle est pleinement assumée dans l'incarnation, et nous allons vivre dans quelques semaines l'avènement du Christ, de Jésus, donc ce petit homme fragile qui naît et que l'on dépose dans une mangeoire, enfin, comme nous le dit la légende, vous voyez bien, en tout cas le récit, nous montre bien la fragilité, la pauvreté dans lesquelles Dieu accepte, lui le Tout-Puissant, accepte de s'abaisser. Et puis le deuxième abaissement, eh bien, c'est celui de la passion, c'est celui de la crucifixion, où Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, accepte l'humiliation de la croix et avant cela, l'humiliation de la condamnation, de sa passion et de la mort sur la croix. Donc voilà deux abaissements qu'en théologie on appelle kénose, K-E accent aigu N-O-S-E. Donc le fait... Kénose, c'est en grec, c'est le fait de se vider de soi-même. Donc Dieu se vide de lui-même seulement dans ces deux kénoses ou dans cette kénose, Dieu demeure toujours Dieu. Il n'est pas amoindri par cette kénose. Il n'est ni amoindri par l'incarnation, ni amoindri par la crucifixion, par le fait de la mort humaine. Voyez, il garde en son essence sa totalité, son entièreté, sa divinité n'est pas entamée, elle est entière. Alors donc aujourd'hui nous allons aborder le mystère pascal et nous commençons bien entendu par la passion et la semaine prochaine on abordera la résurrection, en tout cas le deuxième volet de la résurrection. Mais pour ça, je vous propose que nous commencions par l'itinéraire de Jésus. Quel est cet itinéraire qui a mené Jésus à la mort? Donc le grand 1, Jésus de Nazareth, l'itinéraire de Jésus. Donc l'itinéraire et tout l'itinéraire de Jésus, on doit le comprendre et il s'inscrit dans un mouvement qui est initié par Dieu, initié par le Père. En raison même de la mission que le Père confie au Fils. Mais cet itinéraire, c'est-à-dire la manière dont Jésus de Nazareth va vivre cette mission, va mettre en œuvre cette mission, va mettre en place cet itinéraire, c'est quelque chose qui lui appartient en propre. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'est pas le pantin du Père. Il décide du moment de l'enseignement, où il va délivrer un enseignement, et on sait que c'est plutôt tardif, hein, et on sait que c'est après l'âge de 30 ans. Il décide des hommes qui feront partie de son groupe, donc il est maître en propre de la mise en œuvre de sa mission dans l'itinéraire que lui-même choisit. Ça, c'est un point important. Et donc, il commence par choisir un groupe d'hommes qui va l'accompagner tout au long de cette mission. Et donc, ces hommes deviendront ses apôtres. Alors ça, vous le savez, mais on doit faire le lien avec les prophètes dans l'Ancien Testament, avec la dimension de l'élection. Là aussi, Dieu, dans l'Ancien Testament, avait choisi des hommes qu'il avait choisis et qu'il avait pris parmi le peuple. C'était des hommes qui étaient connus du peuple. Eh bien là, c'est pareil. Les hommes que choisit Jésus de Nazareth sont des hommes qui sont connus de leur milieu. Ils sont identifiés. Et là aussi, on retrouve un thème théologique qui est celui de l'élection. Donc, Jésus s'entoure d'apôtres, en tout cas d'hommes qui deviendront ses apôtres, et c'est lui qui va décider du moment où il va commencer sa prédication. C'est-à-dire du moment où va commencer sa vie publique. Jusque-là, il était Jésus, fils de Marie et de Joseph, le charpentier. Il n'avait pas donné plus de... On n'en sait pas plus hein, sur la vie de Jésus avant le moment de son baptême par Jean-Baptiste, par ce baptême qu'il demande, où il est intronisé par l'Esprit qu'il reçoit. Et donc, le baptême de Jésus doit être vu comme une investiture prophétique. Ce n'est pas simplement un moment particulier dans sa vie où il demande à Jean-Baptiste de le baptiser. Jean-Baptiste donnait un baptême de pardon et Jésus, bien entendu, n'entre pas dans ce cadre-là du pardon. Mais on doit voir le baptême comme une investiture prophétique sur lequel l'Esprit descend sur Jésus. Et l'Esprit descendant sur Jésus, on le voit, c'est une colombe, eh bien cela inaugure le ministère de Jésus proprement dit. Et le début de sa prédication, on pourrait même le cœur même, le centre de sa prédication, eh bien c'est l'annonce du royaume de Dieu. Et c'est Marc qui nous le dit en premier. Marc, à qui on dit ben Marc c'est l'évangéliste du secret messianique. Dans l'évangile de Marc, il dit souvent où Jésus, lorsqu'il fait un miracle, ne vous montrez pas, où Marc dit, considère les apôtres comme étant ceux qui ne comprennent pas ce que dit Jésus. Il y a quelque chose de la culture d'un secret dans l'évangile de Marc, ce qu'on appelle le secret messianique. Et pourtant, Marc, au chapitre 1 et au verset 15, eh bien Marc, il nous dit, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, le thème de royaume des cieux ou royaume de Dieu, c'est un terme qui est très usuel dans le judaïsme et que l'on va retrouver très largement dans l'Évangile de Matthieu. Mais les mots de l'Évangile, chez Marc, ne nous disent pas ce qu'est le royaume de Dieu. En revanche, nous pouvons tout de même, à la lecture de ce verset, nous dire « Ben oui, quelque chose ne s'approche pas de nous, mais quelqu'un s'approche de nous. » Donc c'est le règne de Dieu et c'est Dieu lui-même qui se révèle en personne. Et c'est Jésus lui-même qui est le royaume de Dieu au milieu des hommes, parmi lesquels il enseigne, il guide et il guérit. Donc la parole de Dieu, elle se fait prédication en Jésus-Christ et elle se fait acte aussi en Jésus-Christ. Et les actes, une parole en acte en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, ce sont les miracles. Parce que les miracles, à part le fait qu'on soigne les corps et les esprits, les miracles doivent être compris comme les signes du royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas simplement la guérison de corps ou d'esprit, mais c'est pour le Christ, cela fait partie de son enseignement et peut-être même de sa prédication en acte, la présence du royaume de Dieu sur terre. Et c'est donc une parole qui agit et c'est une parole qui sauve. Et c'est en cela que le royaume de Dieu est accompli déjà dans une parole qui agit et qui sauve. Mais cette parole, elle va se déployer aussi dans un enseignement très large, avec des genres, on le voit dans les évangiles, des genres littéraires différents, des paraboles, des récits, des annonces, des dialogues, ou parfois que des narrations. C'est un enseignement qui est destiné aux foules, mais qui est aussi destiné à ses disciples. Et on l'a vu déjà, que lorsqu'il y a une difficulté de compréhension, eh bien Jésus se fait le pédagogue. Il va se faire celui qui va enseigner ses apôtres. À eux, je dis une parabole, mais à vous, je vous délivre, je dévoile la vérité de cette parabole. On a ça dans la parabole du semeur, par exemple. Donc la vie de Jésus, elle commence par une parole, comme la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, mais par un enseignement et par des actes qui sont des œuvres de salut. Vraiment, ayez vraiment en tête que les miracles sont vraiment les signes de l'œuvre de salut déjà sur terre. Et c'est donc l'unité de tout cela qui fait la mission de Jésus. C'est pas simplement les miracles d'un côté, son enseignement, le fait qu'il choisisse des apôtres, c'est vraiment la totalité, l'unité de tout cela qui constitue la mission de Jésus. Et donc c'est notre point 1-2, la mission reçue du Père. Alors sa mission, ce sont deux choses, et on vient de le voir, c'est action et prédication. Il n'y a jamais une prédication sans une action. Et sa mission est de réaliser la promesse, on en revient à la promesse de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la promesse de salut vétérotestamentaire, celle de l'Ancien Testament. Parce que cette promesse, elle est à accomplir par le Christ dans le Nouveau Testament. Vous voyez le passage d'une promesse à un accomplissement. Et donc, cette promesse, elle fait partie de la révélation et elle s'inscrit dans une histoire de foi. Ça a commencé avec Abraham et ça se poursuit avec déjà les hommes que Jésus choisit, qui sont capables de tout laisser sur place pour le suivre. Donc il y a déjà l'idée d'une prémisse de foi parce que cet homme n'est pas un homme comme les autres. C'est un homme pour qui on peut tout quitter, on peut tout laisser pour le suivre. Donc ça, il y a déjà originairement quelque chose qui est en la personne du Christ. Et donc la mission que Jésus reçoit du Père vient révéler la filiation entre le Père et le Fils. Vous voyez bien, une filiation directe, une intimité. Et donc cette filiation ou cette intimité du Père et du Fils ne signifie pas pour autant qu'il y ait une relation exclusive entre le Père et le Fils, c'est-à-dire bilatérale, qui ne concernerait qu'eux. Alors oui, c'est vrai dans un sens, mais pas dans l'autre. Parce que cette filiation, cette donation du Père par le Fils et dans le Fils, elle est pour les hommes. Donc ça veut dire que Dieu divin se donne et se met en relation avec les hommes. Donc il y a vraiment une relation unique entre le Père et le Fils, mais qui n'est pas exclusive, qui est aussi une relation qui se met en dialogue avec les hommes. Et donc, cette relation, cette filiation, elle met pratiquement naturellement en lien avec la dimension trinitaire. Si le Père incarne le Fils, il le fait par la puissance de l'Esprit. Donc, la dimension trinitaire, on l'a vu la dernière fois, on la comprend à partir de l'incarnation du Fils. Donc l'unité du Père et du Fils, elle se fait aussi avec l'Esprit. Donc on a bien une dimension trinitaire, une mise en action de la mission du Fils, qui se met en œuvre par la puissance de l'Esprit. Et les miracles ne peuvent se faire que par cette puissance de l'Esprit qui est commun au Père et au Fils et qui se met en action par la médiation du Fils. Donc la mission fait partie de la relation trinitaire. C'est pourquoi il ne faudrait pas réduire la relation Père-Fils, par exemple, à une simple obéissance du Fils au Père. Ce serait réducteur. Parce que précisément, la mission et la filiation, elles sont vécues dans une relation qui est unique. Et donc Jésus, en recevant cette mission, eh bien il reçoit aussi l'autorité du Père, ce qui permet à Jésus d'enseigner avec autorité, de faire des miracles avec autorité et de faire face aux docteurs de la loi avec autorité. Il parle avec autorité à la foule, par exemple. Et il ne fait pas de différence entre l'autorité face à la foule ou face au docteur de la loi. Sa manière, son autorité, on va dire native, enfin de sa nature à la fois humaine et divine, elle lui est tout à fait propre. Donc il y a une force et une autorité qui émanent de lui, mais il faut dire aussi que cette force et cette autorité, eh bien, elle l'a suscité de l'admiration, mais on va voir que dans son itinéraire, elle a suscité aussi de la haine et pas seulement de l'admiration. Donc notre point 1.3, on va regarder quels sont les motifs de la haine, par exemple. Alors, si on reprend un peu les faits, on dit Jésus a commencé par former un groupe d'hommes autour de lui. Ça, c'est acquis. Il a rassemblé la foule qui le suivait, et même les foules, puisqu'il y avait tout au long de ses prédications plusieurs foules qui le suivaient, parce que Jésus prononçait des paroles qui sauvent. Il faut voir ça, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement des paroles d'autorité, mais c'était des paroles qui sauve, et surtout, il posait des gestes aussi qui sauvaient, les miracles, dont beaucoup étaient témoins. Donc voilà un homme particulier qui s'adresse aux foules de manière particulière et qui en plus a des paroles qui sauvent immédiatement. Donc on pourrait dire que Jésus était un homme populaire, il était connu. Il était reconnu, et même souvent on le suivait. Vous savez, quand il passe d'une rive à l'autre, certains prennent des barques pour le suivre sur l'autre rive. Donc il est même, on pourrait dire, poursuivi. Mais cette popularité, justement, cette popularité qui est quand même inattendue à cette période-là, elle est inattendue pour les Juifs, comme pour les Romains, comme pour l'autorité romaine, eh bien, cette popularité va susciter justement de la méfiance à son égard. On commence à être méfiant de cet homme-là, qui parle aux foules, qui entraîne derrière lui des foules, qui le suivent, qui fait des miracles. Alors ceux qui seront attentifs à ce surcroît de popularité, en dehors bien entendu des responsables religieux, ben vous imaginez bien, ben ça va être les Romains, ce sont les Romains. Parce que les Romains, l'autorité romaine, elle voit quand même d'un très mauvais œil tout mouvement de foule, tout débordement dans la cité, on va dire. Hein, les Romains sont connus pour aimer l'ordre. Et donc, les rassemblements que les guérisons, par exemple, opèrent, eh bien ça, l'autorité romaine le voit d'un très mauvais œil parce que les rassemblements sont difficilement gérables. Et puis, l'autorité romaine voit bien que ces désordres-là sont liés à la religion, sont liés à une dimension religieuse. Et donc, si les Romains accordent à la religion juive de pouvoir, de pouvoir suivre, aller à la synagogue, de pouvoir confesser sa foi, de pouvoir rendre le culte de sa foi, il n'en demeure pas moins que pour les Romains sont païens et que cette, on va dire, cette autorisation qui est donnée par les Romains aux Juifs et aux docteurs de la loi dans les synagogues est une autorisation fragile. Donc vous voyez bien déjà ce qui est en train de se... le tableau, comment il se construit. Des religieux qui voient très mal que Jésus, ce juif, qui est connu, rassemble des foules et est une prédication et un enseignement décalé par rapport à celui des docteurs de la loi. Et pour les Romains, ce n'est pas simplement un débordement populaire, c'est un débordement populaire qui a à voir avec la dimension religieuse. Donc on a là, du côté des Romains, deux raisons de se méfier. Mais la haine, en fait, la haine dont il est question, en dehors du fait que les Romains tolèrent la pratique religieuse des Juifs, à condition qu'il n'y ait pas de débordement, la haine dont il est question est particulièrement exprimée par les autorités juives, en fait, et on les comprend. On les comprend. Voilà un homme qui a un discours qui peut mettre en péril la fragilité de cette tolérance donnée par les Romains. Donc, les Juifs craignent pour leur pratique et pour le fait de pouvoir continuer à rendre le culte qui est le leur. Donc les grands prêtres, les docteurs de la loi voient bien que les raisons d'en vouloir à Jésus ou les raisons de la haine se mettent en œuvre. Comment elles se mettent en œuvre? Eh bien, par des choses que vous connaissez déjà, parce que Jésus va enfreindre le commandement juif du sabbat, on le voit, il guérit le jour du sabbat, il ne respecte pas les prescriptions de pureté. Vous vous souvenez que lorsque lui et ses disciples vont manger, on reproche à Jésus que ses disciples ne font pas les ablutions, donc les prescriptions de pureté. En plus, il fréquente les pécheurs et même il mange avec eux. Et surtout, il critique la loi. Donc voilà des éléments qui sont des éléments qui ne jouent pas en faveur de Jésus. Donc il enfreint le commandement juif du sabbat, il ne respecte pas les prescriptions de pureté, il fréquente et mange avec les pécheurs, il critique la loi. Mais surtout, on pourrait dire même par-dessus tout, ce que fait Jésus, c'est qu'il pardonne les péchés. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible, qui ne peut pas être reçu par les autorités religieuses. Souvenez-vous, la guérison du paralytique en Marc 2:1-12 ou la femme adultère en Jean 8:1-11. Il pardonne les péchés. En conséquence de quoi ? Eh bien, l'attitude et les paroles de Jésus remettent en question la représentation juive de la justice et de la sainteté de Dieu. Ça, c'est très important. Les Juifs ont une représentation de la justice et de la sainteté qui est la leur, qui est liée à la Torah, à leur histoire. Voilà que Jésus, en pardonnant les péchés, vient rompre cela. C'est-à-dire que toute la représentation juive de la sainteté, de la justice, est totalement remise en question. Parce que pour les Juifs, il faut observer les commandements de la loi. Ça, c'est premier. Il faut observer les obligations de pureté. Il faut observer les interdits alimentaires. Et donc, vous voyez bien, tous ces éléments qui sont dans la loi, eh bien, passent en premier avant ce que Jésus met en œuvre, à savoir le salut des corps et des esprits, à savoir le pardon des péchés et les miracles. Ce sont des miracles qui sauvent. Donc pour les autorités religieuses, la nouveauté absolument radicale du message de Jésus, elle est tellement inédite, tellement incompréhensible, voire inacceptable, qu'elle en est dangereuse. Donc Jésus devient l'homme à abattre, pourrait-on dire. Et donc pour les autorités religieuses, ce que dit Jésus et ce qu'il fait ne peut être que fait et dit de la part d'un faux prophète. Et donc Jésus est considéré comme étant un faux prophète. Alors vous voyez, Jésus se retrouve dans une situation délicate parce qu'il se retrouve à la fois rejeté par les autorités juives et puis il est mal vu par les Romains. Donc ça, c'est déjà un itinéraire qui se déroule pas tout à fait dans la ligne de quelque chose qui peut aboutir à une victoire. Donc la situation, en fait, elle est la suivante. Pour l'autorité religieuse, Jésus représente une vraie menace. Et donc une menace, eh bien, il faut l'éliminer. Il représente une menace parce qu'il remet en question les fondements même de la religion juive. Voyez bien la loi, c'est-à-dire suivre les prescriptions de la loi, ce sont les fondements de la religion juive. Donc Jésus vient remettre en question ces fondements-là. Donc il ne fait pas de doute que Jésus doit mourir. Effectivement, il doit mourir. Mais comme les Juifs n'ont pas d'autorité politique, juridique pour faire mourir Jésus, alors ils s'en reportent à l'autorité romaine. Ils font appel à la justice romaine. Seulement voilà, les choses ne sont pas si simples. Parce que les autorités religieuses, elles n'ont pas vraiment de motifs pour faire condamner. Alors évidemment, les motifs, ils sont de leur point de vue, du point de vue de la religion, de la pratique, des commandements et de la loi. Mais pour les autorités, dire cela à l'autorité juridique romaine, ça n'a pas de consistance, puisque la loi romaine ne se mêle pas et ne veut surtout pas se mêler des questions religieuses. Donc, les autorités religieuses n'ayant pas de véritable motif de condamnation, eh bien, vont user de ruses et même de mensonges. Voilà ce qu'on peut lire dans le texte que vous devez avoir. C'est un texte de Matthieu, au chapitre 26, au verset 1-5. Or, quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples: vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque, le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, pour éviter les troubles dans le peuple. Donc vous voyez déjà ce qui se met en place, c'est l'arrestation de Jésus. Une arrestation selon des motifs qui s'avèrent être des motifs mensongers. Donc voyons notre point 2, arrestation et condamnation. Les motifs de l'arrestation et de la condamnation. Le premier motif se base sur le faux témoignage. On peut le lire dans Marc 14, chapitre 14 et versets 55. Et puis ensuite 57 et 58. Normalement, vous avez le texte. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort et ils n'en trouvaient pas. Donc, si on poursuit dans les versets 57 et 58, on peut lire « Mais quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu qui disait « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Donc le premier motif contre Jésus, selon un faux témoignage, ou selon une interprétation tout à fait terre-à-terre, à savoir « je détruirai le sanctuaire fait de main d'homme et en 3 jours je le rebâtirai ». Donc le premier motif, c'est le motif de la destruction du temple. Il veut détruire le temple. Premier motif de la condamnation. Le deuxième motif se rapporte à la question du Messie, et c'est toujours chez Marc, au verset 61-62 du même chapitre. Et c'est quand le grand prêtre interroge Jésus et lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant dans les nuées du ciel. » Alors j'avais mis entre parenthèses le verset 1 du chapitre 1 de Marc. Et je vous disais tout au début du cours que Marc c'est l'évangéliste du secret messianique. Eh bien il se trouve que Marc, au chapitre 1 et au verset 1, donc ça veut dire tout au début de son évangile, voilà ce qu'il écrit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Marc, dès le début de son évangile, il révèle l'identité de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque Jésus répond à la question du grand prêtre, « Es-tu le Messie, le fils de Dieu béni ?» Jésus répond naturellement « Je le suis ». Et donc ça doit faire écho dans notre tête à Exode 3,14, vous vous souvenez, Dieu parlant dit « Je suis qui je suis ». Donc on a, et on l'a vu avec le ego émi à un cours, hein, tous les « Je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection », etc. Donc relevons cette affirmation « Je le suis » qui révèle là aussi l'identité de Jésus. D'une certaine façon, il révèle son identité, il est le Messie. Donc, deuxième motif de condamnation, c'est le fait d'affirmer qu'il est le Messie. Et donc, pour les Juifs, le Messie désigne la figure historique du roi. Et le Messie, il est attendu par les Juifs. Donc, pour ne reconnaissant pas en Jésus de Nazareth le Messie, cet homme-là est un blasphémateur. Non seulement c'est un faux prophète, mais en plus, c'est un blasphémateur. Donc il n'est pas étonnant que lors de l'interrogation de Jésus par Pilate, eh bien la question que Pilate pose à Jésus concerne justement le fait d'être le Fils de Dieu. En tout cas, ne concerne pas le fait d'être fils de Dieu, plus exactement, mais concerne le fait d'être roi, puisque le Messie, la figure prophétique du Messie, c'est d'être roi. Messie, c'est le oint, c'est celui qui est oint, celui qui est intronisé. Donc Pilate, lorsqu'il demande à Jésus, il ne va pas lui demander s'il est le Messie, mais il lui demande, tu es le roi des Juifs? Vous voyez le déplacement? Le déplacement, il est sur la royauté. Et la royauté, ben, ça intéresse directement les Romains, puisque pour les Romains, le roi, c'est l'empereur. Donc si Jésus dit qu'il est le roi, ben, il met en cause l'empire, il met en cause l'empereur et l'empire romain, enfin, en quelque sorte. Ce qui est intéressant de voir, c'est la manière dont est posée la question par Pilate, en Marc, vers chapitre 15, verset 2. C'est « Tu es le roi des Juifs ?» Vous voyez, moi, je mets l'intonation. Mais si, à l'écrit, on enlève le point d'interrogation, eh bien, on a une affirmation. « Tu es le roi des Juifs ?» Vous voyez, c'est pas « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est « Tu es le roi des Juifs ?» avec le point d'interrogation, voilà, donc, voilà, juste attraper cette petite subtilité. Donc, la question de la royauté, là, en revanche, ça intéresse l'autorité romaine. Parce que pour les Romains, eh bien, la question de la royauté, c'est une question temporelle, et non pas une question spirituelle. La dimension spirituelle, c'est la dimension religieuse, ça ne les concerne pas. Mais la dimension temporelle, ils sont directement concernés. Donc, quoi qu'il en soit, par ce deuxième motif, eh bien, les Romains vont accuser Jésus aussi d'être un blasphémateur. Donc, il est blasphémateur du côté des Juifs, mais aussi du côté des Romains. Et là, pour les Romains, c'est contre l'Empire et contre la religion païenne romaine. Donc vous voyez bien que tous les éléments d'un procès se mettent en place. Voilà, les choses se sont mises en place. Simplement, on parle de procès, la passion, simplement il ne s'agit pas d'un procès comme les autres. Et ça, les évangélistes, c'est intéressant de nous poser la question, pourquoi les évangélistes ont-ils présenté la passion et l'arrestation et la condamnation de Jésus selon la forme d'un procès. Donc là, c'est le point que nous voyons, deux, des récits de la passion sous forme de procès. Vous me dites, est-ce que je vais vite ou pas? Ça va? Je peux aller. Je peux que j'aille un peu vite quand je vois l'heure. J'ai l'impression que j'avais très vite. On aura du temps pour parler après, remarquez, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors voilà, nous sommes, comme je vous le disais, en droit de nous poser cette question-là. Parce que le fait que la passion soit rédigée sous forme de projet nous interroge parce que ce n'est pas anodin de la part des évangélistes. Cela veut dire qu'ils ont voulu insister sur l'injustice de cette arrestation et de cette condamnation. Vous voyez bien, on n'est pas dans un procès de droit commun. Il y a un délit, une arrestation, une condamnation, les faits sont clairs, ils sont avérés, la condamnation peut être prononcée. Là, on a quelque chose d'un peu flottant. Une autorité religieuse qui veut faire mourir Jésus et puis une autorité juridique, romaine, qui est bien ennuyée avec cet homme-là, mais qui n'a pas forcément le désir de faire mourir. Donc vous voyez bien que le procès, et même le procès que les Romains vont mettre en œuvre, n'est pas un procès habituel. C'est pas un procès de droit commun. Jésus n'avait commis aucun délit de droit commun. En tout cas, aucun délit qui nécessite la tenue d'un procès. Ça veut dire qu'en rédigeant le récit de la passion sous forme de procès, eh bien, les évangélistes ont voulu souligner la dimension parodique de cette condamnation et de cette arrestation. C'est une parodie de procès, ce n'est pas un procès comme les autres. Ils ont voulu montrer aussi le caractère réel de l'arrestation est essentiellement religieux, elle n'est en aucun cas politique, uniquement religieux. Donc, en décrivant comme ça, les évangélistes remettent en cause aussi l'autorité romaine, hein, c'est aussi un coup de griffe pour l'autorité romaine. Donc en fait, les récits de la Passion mettent surtout l'accent sur le rejet de la personne de Jésus. Cet homme est rejeté par tous. Donc voilà comment la vie publique de Jésus, qui commence tardivement, eh bien, l'amène à être arrêté et à être soumis à une forme parodique de procès, à être condamné, à être arrêté, puis à être condamné. Donc ces récits sous forme de procès, on doit les interpréter à partir de la mission de Jésus. Ce n'est pas à partir de sa personne en tant que telle, mais à partir de la mission, puisque lui-même est la mission. Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de distance entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Souvenez, les prophètes dans l'Ancien Testament étaient des messagers. Dieu s'adressait à eux, il ne faisait que transmettre le message de la part de Dieu. Jésus, il est lui-même le message, il est lui-même le royaume qui est parmi les hommes. Donc ce qu'il fait, ce qui est rejeté en sa personne, c'est toute sa mission qui est rejetée, qui n'est pas reconnue d'abord et qui est rejetée. Donc les disciples et les apôtres, lorsqu'ils font une relecture de tout l'événement Jésus-Christ après sa résurrection, ils peuvent interpréter tout cela et le comprendre à la lumière du mystère pascal. Ils n'ont pas compris tout de suite ce qu'était Jésus, ce qu'était sa mission, comment il l'a accompli, quel était son enseignement. Ils n'ont pas compris tout ça, ils ne pouvaient pas le comprendre, ils le vivaient en direct. Ils n'avaient pas de distance avec Jésus, ils étaient tellement près de lui. Donc ils vivaient avec lui et ils ne voulaient pas le quitter. Mais quand Jésus meurt sur la croix et est ressuscité, il a bien fallu qu'ils essayent de comprendre ce qui s'était passé, de relire tout l'événement, y compris de relire le procès qui a été livré à Jésus. C'est comme ça qu'ils ont... Alors on va dire aussi sous l'inspiration de l'esprit, j'imagine pas simplement avec leur propre intellect, écrit les évangiles et qu'ils ont écrit le procès de Jésus de manière à faire ressortir en premier la dimension religieuse du procès de l'arrestation et de la condamnation avant même la dimension de juridique de droit commun. Tout cela pour dire, celui qui a été condamné à mort est un innocent et que Pilate a condamné à mort un innocent. Donc, la fonction des récits de procès, c'est une fonction de prédication. Ça veut dire que les évangélistes se servent des récits de la Passion sous forme de procès de manière à en faire une prédication. La prédication selon laquelle celui qui est cloué sur le bois de la croix et qui est condamné, c'est l'innocent. Et donc on arrive... Je vous laisse terminer d'écrire quand même. Est-ce que ça va ? On peut prendre une minute pour une question. Voilà, on peut... Voilà. Non, pas tout de suite. Alors, sauf s'il y a une question vraiment qui fait... Voilà.
Les questions sont intéressantes, mais c'est mieux qu'elles soient à la fin.
On prendra un temps, parce que du coup, je vois que j'avance. Je vois que j'avance un peu vite. Eh bien, on va prendre ce temps, ne vous inquiétez pas. Puis avec la projection du tableau, ça récapitulera tout ça. Donc on arrive à notre point 3, la Passion de Jésus.
Il y a quelqu'un qui a dit stop. Non, mais c'était pour vous demander de répéter la dernière phrase que vous aviez dite. en fonction des récits de la Passion.
Oui.
Qui a été cloué sur le voile de la croix, c'est vide au sang.
Alors, la fonction, justement, voilà. La fonction des récits de la Passion, le fait que les évangélistes aient donné à la Passion de Jésus et mis en récit selon la forme du procès, a une fonction de prédication.
Voilà.
C'est-à-dire que cette fonction de prédication leur permet de montrer que l'arrestation, la condamnation de Jésus est une condamnation de l'innocent. On a condamné à mort un innocent.
Est-ce qu'ils étaient là au procès ? Enfin, je vous pose la question, vous ne savez pas, mais...
Voilà.
C'est fort.
Alors, je vais continuer. La Passion de Jésus, parce qu'on va aborder tout ça. Notre point 3, la Passion de Jésus, le point 3.1, Jésus accepte sa mort. Jésus accepte le supplice de la croix et il accepte l'humiliation de la condamnation. Parce qu'il n'y a pas seulement la mort sur la croix, il y a aussi l'humiliation de la condamnation. Dès l'instant où Jésus est condamné, l'humiliation, elle est déjà là, peut-être même déjà là à l'arrestation, le fait qu'il soit arrêté, le fait qu'il soit condamné, le fait qu'il soit innocent, l'humiliation, elle commence déjà là. Et donc, quand Paul nous dit que c'est une folie pour les hommes et une sagesse et une puissance de Dieu, Paul veut nous révéler à la fois le caractère absolument inadmissible de la condamnation et en même temps, il veut souligner le mystère total de cette acceptation. Dieu le Tout-Puissant accepte d'être condamné comme un brigand et accepte de mourir sur la croix. C'est un mystère, le mystère de cette acceptation. Et pourtant, de fait, Jésus, le Fils de Dieu, accepte cette mort-là. Faut bien reconnaître cela, c'est-à-dire qu'il accepte de mourir pour un brigand, comme un brigand alors qu'il ne l'est pas. Pourtant, l'acceptation de Jésus allant vers sa mort dans l'humiliation et à la croix, témoigne l'extrême fidélité de Jésus vis-à-vis de la mission qu'il a reçue du Père. Il ne lâche rien, Jésus. Il est fidèle à sa mission. Son but, c'est de la mener jusqu'au bout. Ça l'amène à la croix, à la condamnation, mais il demeure fidèle à cela. Donc cette extrême fidélité à sa mission, c'est l'acte par lequel Jésus peut assumer la mort humaine pleinement, radicalement. Donc son acte de fidélité, c'est l'acte par lequel il peut accepter la mort. C'est parce qu'il est fidèle au Père qu'il accepte, qu'il est capable d'accepter la mort. Sauf que oui, cette mission l'amène et aboutit à la condamnation et aboutit à la condamnation à mort. Donc on pourrait croire, parce que j'ai dit souvent le mot échec, on pourrait croire qu'il s'agit d'un échec, parce qu'on se dit finalement ça aboutit là. Pourtant, en fait, ça montre que Jésus n'a pas fait de concession. C'est important de voir que la fidélité de Jésus à son Père, elle va jusque-là. C'est-à-dire, il n'a pas aménagé son discours. Il n'a pas été lâche. Pourtant, Jésus, lorsqu'il monte prier au Golgotha, on voit son angoisse. Il dit « Père, éloigne de moi cette coupe si tu le peux ». Donc il éprouve de l'angoisse, il éprouve de la peur aussi. Donc il aurait très bien pu aménager son discours de manière à être consensuel, à faire plaisir aux uns et faire plaisir aux autres. Non, Jésus, il n'a pas aménagé son discours. Il a dit ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il avait à faire, il a guéri comme il devait guérir, y compris le jour du sabbat, s'il fallait guérir le jour du sabbat, y compris pardonner les péchés, parce que c'était sa mission, c'était pour cela qu'il était là, parce que c'était que de cette manière-là qu'il pouvait montrer et témoigner en sa personne qu'il est le royaume de Dieu sur terre. Il ne vient pas raconter le royaume, il vient l'être, le vivre pleinement au milieu de ses témoins. Donc, cette manière de parler, et de parler aux autorités juives, aussi avec autorité, montre qu'il est en divinité et en humanité, fidèle au Père, fidèle à sa mission, fidèle aux hommes et fidèle à l'amour qu'il a pour eux. Parce qu'au fond, tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Parce que c'est l'amour qui va sauver les hommes. C'est cela le moteur, en quelque sorte, de Jésus. Mais effectivement, si sa parole a rassemblé, eh bien oui, elle a aussi divisé. Vous vous souvenez de ce passage que je n'ai pas en tête là de l'Évangile ? Il me semble que c'était une des lectures, il n'y a pas si longtemps que ça, où il dit, ben, en fait, dans une même famille, la mère se fâche. Voilà, je ne suis pas venu pour le. Je suis venu pour diviser. L'un sera fâché avec l'autre, la belle-mère avec la belle-fille, etc. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il n'est pas. Parce que c'est une parole qui est. C'est pas une parole qui divise, mais c'est une parole, comme elle est reçue, qui peut diviser dans la manière, qui agit et qui peut agir comme ça. Qui est radicale, totale, effectivement. Alors, dans cette idée qu'il n'a pas aménagé sa prédication, eh bien, Jésus, cela montre que Jésus demeure jusqu'au bout celui qui décide. Celui qui décide, même s'il est arrêté, même s'il est condamné, il décide, il demeure celui qui décide. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il n'a pas subi sa mort et que sa mort, il l'a décidée. Enfin, en quelque sorte. Du fait, il l'a décidé, du fait qu'il ait accepté d'être livré. Parce que Jésus, sur la croix, va mourir comme un homme. C'est le Fils de Dieu, et on a vu avec la Trinité, peut-être pas encore avec vous, sa personne, deuxième personne de la Trinité, double nature, nature humaine, nature divine. Eh bien, Jésus meurt sur la croix au nom de son humanité, au titre de sa nature humaine, il meurt comme un homme. Mais il ne meurt pas comme tous les hommes, parce que tous les hommes ne meurent pas condamnés à mort. Tous les hommes ne meurent pas innocents cloués sur une croix. Vous voyez cela ? Ça, c'est important. Il meurt comme un homme, mais pas comme tous les hommes. Et donc, cette acceptation-là, cette obéissance-là, et la souffrance de Jésus sur la croix, eh bien, doit être interprétée comme étant, eh bien, l'acte du plus grand amour, en fait. C'est le don par amour, cette acceptation, c'est le don par amour. L'arrestation, la condamnation, la mort sur la croix. Donc l'obéissance du Fils au Père est la forme du plus grand amour. C'est notre point 3.2. L'obéissance du Fils de Dieu est la forme du plus grand amour. C'est pourquoi l'obéissance de Jésus à la croix ne doit pas être comprise en dehors de l'amour du Père pour le Fils et vice-versa. On ne doit pas éliminer à la croix la dimension de l'amour. Alors on peut contempler la croix et bien entendu voir la souffrance du Fils à la croix, mais on ne doit pas faire de la croix ou faire de la souffrance le tout de la contemplation de la croix, parce qu'on doit aussi y voir le grand amour, l'immense amour, l'amour inouï du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. C'est-à-dire que cette obéissance au Père est justement la voie par laquelle le Christ va et accepte l'extrême de l'amour pour les hommes. Vous voyez, c'est un acte pour lui. Le fait d'accepter de mourir sur la croix, c'est de montrer l'immense amour qu'il a pour les hommes. Et c'est cet amour-là qui sauve. Et donc, amour et obéissance de la part du Fils répond à un commandement de la part du Père, à un commandement du Père. C'est l'évangéliste Jean qui nous le dit au chapitre 10 et au verset 17-18, où Jésus dit « C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Donc, l'obéissance du Fils au Père, l'amour du Fils au Père pour les hommes répond à ce commandement suprême et répond au fait que le Christ a consenti à mourir, non pas dans une résignation passive, parce qu'on voit bien que Jésus n'est pas résigné, mais justement en transformant ce qui est de l'ordre du consentement, donc il transforme ce qui est de l'ordre du consentement en un don, en un acte d'obéissance. Ce qui fait que l'obéissance de Jésus n'est pas une obéissance servile, voyez ? Ça déplace les choses. Lorsque Jésus obéit au Père, il obéit par amour, donc ce n'est pas une obéissance servile, ce n'est pas une soumission. Mais il faut voir l'obéissance de Jésus comme étant la forme la plus achevée du plus grand amour. Donc l'obéissance de Jésus à son Père est la forme achevée du plus grand amour. Et si c'est la forme achevée du plus grand amour, alors cette obéissance devient une grâce. Ce n'est plus seulement le fait d'obéir au Père, elle devient une grâce et elle devient une grâce pour nous. Vous voyez le cheminement de l'acceptation jusqu'à la grâce. Ce n'est que pour nous. C'est le pronobis, c'est pour nous tout cela. Ce qui est significatif, ce n'est pas tant l'obéissance en elle-même que la manière dont le Christ accepte de renoncer à être Dieu à la manière des hommes. Jésus refuse d'être celui qui va descendre de sa croix parce que le soldat lui dit « Descends de ta croix si tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus ne descend pas de sa croix. Donc, Jésus accepte de renoncer à être Dieu à la manière dont les hommes voulaient que Dieu soit pour eux. C'est cela qui change. Et même ça change de la part des disciples. Certains voyaient en Jésus un peu le zélote, vous savez, un peu les activistes, voire entre guillemets les terroristes de l'époque, qui faisaient des attentats contre les Romains, parce qu'ils luttaient contre l'Empire romain, puisque les Romains étaient les occupants. Eh bien, Jésus était vu aussi comme un libérateur politique, qu'il n'était pas, c'était pas sa mission. Il ne venait pas libérer le peuple juif de l'emprise romaine. Il venait être le royaume, il était le royaume, il voulait le sauver de quelque chose de plus grand que cela. Simplement, il faut bien imaginer que parmi les disciples de Jésus, il y en avait certains qui voyaient en lui autre chose que le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus, à un moment donné, dans les évangiles, souvenez-vous, Jésus pose la question « Pour vous, qui suis-je ?» Ah, pour eux, que dit-on de moi ? Certains, tu es Élie, surtout tu es le prophète, ou voilà. Et c'est Pierre qui dit, tu es le Messie, tu es le Saint de Dieu, tu es le Messie de Dieu. Donc voilà, Jésus avait aussi à lutter d'une certaine façon, bien qu'il n'ait pas lutté comme on lutte contre une idéologie, mais vous voyez, contre le fait que certains voulaient l'enfermer dans une manière d'être Dieu qui était attendue pour eux. Cela signifie donc que Jésus vient renverser la représentation humaine du roi divin. Bon, et ce n'est pas de leur faute, on en est tous là, on a tous une représentation de Dieu. Eh bien, à l'époque de Jésus, Jésus, en acceptant de mourir comme un brigand, eh bien, renverse la représentation humaine du roi divin et aussi la représentation humaine de la justice divine. Et aussi la représentation humaine de l'obéissance et puis en dernier de la puissance. Vous imaginez bien la remise en cause de la puissance de Dieu. Dieu peut tout. Ben voilà que Dieu meurt sur la croix. Ça doit nous interroger aussi encore aujourd'hui. Enfin, d'autant plus que... Alors bien sûr, il y a la résurrection au bout, on est d'accord, mais vous voyez bien, ça interroge. Et donc, Jésus n'est pas la représentation humaine du Messie qui était attendue par les hommes de son époque. Là aussi, il vient bouleverser peut-être la représentation que ses apôtres avaient du Messie. Donc ce Messie-là, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, n'est pas le Messie qui a été reconnu, parce que la représentation du Messie qui était attendue ne correspond pas à la personne de Jésus. Il vient tout bouleverser. Donc ça ne peut pas être le Messie, ça ne peut pas être celui que les Juifs attendaient. Vous voyez ? Seul Jésus sait ce que c'est d'être obéissant dans la souffrance tout en étant le Messie. Cette expérience, et l'expérience qu'il fait de la souffrance, est la forme la plus radicale du renoncement. Et la souffrance est justement le lieu de la forme la plus radicale au renoncement à cette représentation, à cette forme d'être Dieu selon les hommes. Et donc ce renoncement-là l'amène à la croix. Il n'a pas été reconnu par les autorités, par l'autorité religieuse, parce que ce n'est pas le Messie. Le Messie qu'ils attendaient ne correspondait pas à ce qu'était Jésus. Et puis on ne parle pas des Romains, puisque on voit bien, on en a déjà un petit peu parlé. Donc ce renoncement total, radical, l'amène à la croix et à la mort sur la croix. C'est notre point 3.3. La mort de Jésus sur la croix, la souffrance du Fils de Dieu. Sur la croix, Jésus a vécu une souffrance physique incroyable, ça, bien entendu, vous le savez. Il a fait aussi l'expérience de l'échec, de l'abandon des siens, et même de la trahison de ceux qu'il avait nourris et guéris, pour la plupart. Sûrement qui étaient dans la foule et qui criaient, qui avaient été guéris par Jésus et qui pourtant criaient peut-être à sa condamnation. Mais c'est à son Père que Jésus s'adresse avant de mourir. Il ne s'adresse pas aux hommes. Sauf peut-être à Jean, au pied de la croix, lorsqu'il confie Marie, sa mère, à Jean. Mais sinon, Jésus s'adresse à son Père avant de mourir. Dans Luc, chapitre 23, versets 44-46, il dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». C'est bien au Père qu'il s'adresse. Cela veut dire, hop, on raccroche un peu avec la dimension théologique, ça veut dire qu'à la croix, eh bien, la relation trinitaire est dévoilée. Elle est dévoilée dans une concordance, on va dire, une concordance parfaite entre le Père et l'obéissance du Fils, en la présence de l'Esprit. Si le Fils remet au moment de mourir l'Esprit dans les mains du Père, à la croix, la Trinité est parfaite. Le Fils s'adresse au Père et il remet dans les mains du Père l'Esprit qui leur est commun. Donc, c'est bien là l'accomplissement à la croix sous le mode de la fidélité et de l'amour. Et ça, ça dépasse toutes les représentations humaines que nous pouvons avoir de l'obéissance. Alors, on en arrive, il est 15 heures, on en arrive, et donc à notre point 4, c'est-à-dire le point où il y a le tableau de Francisco de Zurbarán, mais je vous propose quand même qu'on s'arrête, qu'on prenne un temps de questions, parce que on va de discuter entre nous. Et puis voilà, puis après il y aura peut-être 5 minutes de pause, ce sera le temps que j'ai cherché Hélène pour mettre en place le visioprojecteur, et puis on reprendra, je reprendrai ensuite à partir du tableau, et puis avec des questions. Est-ce que ça vous va? Voilà, bon, très bien. Alors j'arrête l'enregistrement. Voilà, alors, vous avez ici la représentation d'un Christ en croix, qui est un Christ en croix mort, c'est le titre de ce tableau, donc c'est un tableau de Francisco de Zurbarán, qui est espagnol, qui est andalou, et ce tableau, si vous avez l'occasion d'aller en Espagne à Séville, vous allez au musée municipal, musée des arts de Séville, vous avez ce tableau-là, précisément ce tableau-là. Donc Zurbarán, il est né en 1598, il est mort en 1664, et donc on dit qu'il est le contemporain de Velázquez. Donc Velázquez était le peintre des rois. Zurbarán, lui, il va développer des ateliers en nombre à Séville, principalement à Séville. Alors, ce tableau, lorsque je l'ai vu pour la première fois à Séville, il est au détour d'un couloir, c'est-à-dire en fait vous quittez une grande salle. Pourquoi ça fait ça ? Ah, faut que je remue le... ça, là, de temps en temps. Ok. Ok, je fais ça. Donc, en fait, ce tableau, on sort d'une grande salle, vous imaginez, vous sortez dans un couloir, vous prenez le couloir, et à peine vous avez amorcé le couloir, donc le couloir n'est pas très grand, comme ça, vous êtes face au tableau de Zurbarán, qui est grandeur nature. Un tableau immense, qui est magnifique. Et donc ce tableau-là, en vrai, il est extrêmement impressionnant. Alors, tout à l'heure, j'entendais madame qui disait « il y en a d'autres ». Oui, il y en a d'autres. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais, Zurbarán, qui était le peintre de l'époque, avait beaucoup de disciples, d'élèves, qui travaillaient dans ses ateliers. Les ateliers tournaient à plein régime, on pouvait dire. Et donc, il y a des représentations du Christ en croix de Zurbarán qui sont multiples, donc, mais qui ne sont pas signées de la main de Zurbarán, qui ont été réalisées par des élèves de Zurbarán. Mais ce tableau-là est signé de la main des Zurbarán. D'ailleurs, c'était une grande difficulté pour les spécialistes de l'art, c'est-à-dire de répertorier... de répertorier le catalogue de Zurbarán, parce que justement, certains tableaux de Zurbarán peints de sa main n'étaient pas signés, qui étaient à côté d'autres de ses élèves qui n'étaient pas signés. Donc en fait, les signatures de ses œuvres sont rares. En fait. Mais donc celui-ci est authentifié de sa main. Voilà. Donc,
Qu'est-ce qu'il a de particulier, Zurbaran ? Zurbaran, il a ça de particulier que dans le siècle d'or de l'art, de la peinture et des tableaux de son époque, eh bien Zurbaran va quitter la dimension doloriste dans les représentations. Vous savez, en Espagne, si vous allez en Espagne, vous voyez bien les tableaux, c'est toujours larmoyant, sanguinolent, enfin, il y a une profusion de sentiments qui sont exacerbés, et les tableaux représentent bien ça. Et bien là, Zurbaran, il a quitté, il a rompu avec cette dimension doloriste pour aller vers ce qu'on appelle, ce mouvement que l'on appelle le ténébrisme. Parce que la plupart de ces tableaux sont des tableaux dont le fond est noir, comme ça. Et donc ce tableau, eh bien, de se crucifié, est particulier dans cette représentation de ce mouvement du dolorisme. Donc, ce que je vous propose, ben, c'est que je me taise, que vous regardiez le tableau, voilà, et puis on en parle dans 2-3 minutes, vous regardez, voilà, ce que vous en pensez, ce que vous remarquez. Je pourrais juste vous dire qu'il y a une crucifixion de Velázquez qui est aussi magnifique, hein, qui, comme celle-ci, qui est vraiment très très belle, peut-être même plus belle que celle-ci. Et là, vous pouvez reconnaître que dans d'autres représentations de Zurbaran, mais qui sont de ses élèves, où c'est différent, c'est que souvent le pagne, il est un peu, vous savez, ça ressemble à aux barboteuses que... Des photos des bébés, oui, comme une, voilà, une espèce de truc bouffant, là. Voilà. Donc, celui-ci est un peu plus harmonieux. Bon, je vous laisse regarder le tableau.
Moi, je n'ai pas mis mon truc.
Celui-là, c'est le seul qui est authentifié. Y a-t-il la possibilité de l'agrandir un peu ?
Ben, si je l'agrandis, le problème, c'est que, vous voyez, je fais comme ça, donc là... Donc là, je ne peux pas faire plus grand.
Merci.
Je ne sais pas comment dire, c'est juste qu'on ne voit pas la figure du Christ, en fait. Donc, dire que ce tableau est moins terrifiant, moins larmoyant, moins que d'autres, ça dépend, on met la clôté, mais... voilà, on peut supposer, oui, que cette tête de Christ n'est pas trop marquée par la douleur.
C'est ça.
On suppose. C'est pas ce qu'il a voulu montrer, en tout cas.
Ben justement, dans cette manière de vouloir rompre avec la dimension de la douleur, la dimension doloriste,
expressif
de la douleur, Zurbaran ne montre pas le visage. C'est-à-dire que le visage est caché et dans l'ombre. Donc, si on ne voit pas le visage, qui est le lieu même de l'expression, alors il va rompre puisqu'il s'agit d'un Christ mort, du visage, de la... Enfin, avant de mourir, Jésus a été supplicié. Donc son visage doit porter les marques du supplice. Là, on ne le voit pas. Donc ça nous met à distance, ça met le spectateur à distance, justement, de cette douleur avec laquelle Zurbaran veut rompre. Parce que pour lui, ce n'est pas le plus important. Oui.
On voit bien qu'il est mort quand même.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est vraiment un Christ mort.
Oui, c'est vraiment un Christ mort.
Et la parole, elle n'est plus là.
C'est ça, oui.
Justement, c'est un Christ mort, mais moi, je trouve qu'il est très... Il est trop raide, quoi, trop droit, trop, j'imagine, du Christ en croix, il peut avoir encore un peu affaissé, quand même, un peu... Et là, il est... Enfin, c'est trop carré.
Alors voilà, ce qu'il y a de particulier dans ce Christ de Zurbaran, c'est qu'au lieu d'être décharné, c'est... Regardez le corps, c'est un corps musclé, c'est un corps jeune, il n'est pas tordu, il n'est pas raide en fait, il est posé. On ne peut pas dire qu'il y ait de la raideur. Regardez, les muscles sont détendus.
Là. Justement, les muscles donnent une impression de mouvement et de force, le fait que les muscles soient mis en relief, et à la fois une force verticale, et qui va... à mon avis, du bas vers le haut, et qui montre une élévation par les... Oui. Enfin, c'est comme ça que je vois, l'élévation par les bras et l'ouverture.
Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait, vous avez raison, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce sentiment d'élévation? Ben regardez, la croix, on ne la voit pas.
Elle est au-dessus de la...
On voit juste la barre horizontale et un petit peu verticale, mais regardez, la verticale, elle est cachée par le corps, et en fait là, on ne voit pas la fondation où est plantée la croix. Ce qui fait qu'en fait, Zurbaran, qui travaille l'ombre et la lumière, eh bien, toute la lumière, elle est sur le Christ, elle n'est pas sur l'objet du supplice, uniquement sur le Christ. Et de fait, le corps n'est pas décharné, le corps, à part la blessure au côté, eh bien, il n'y a pas de sang, il n'est pas dégoulinant. Puis regardez le pagne, il est blanc. Il n'y a pas de sang sur le pagne. Alors bien, après on peut très bien interpréter la blancheur du pagne en disant la blancheur du pagne montre que celui qui porte le pagne et qui est mort sur la croix, c'est l'innocent. C'est-à-dire que le pagne n'est pas entaché par le péché des hommes. Il est l'innocent, il demeure l'innocent. C'est-à-dire la dimension de pureté du blanc est sur lui.
Il y a un autre Christ en croix de Zurbaran.
Oh, il y en a plein.
Oui, qui est à Chicago.
C'est possible.
Là, ouais. Il correspond plus à ce que l'on a l'habitude de voir.
Ouais.
Et notamment, il n'y a pas cette symétrie du corps entre la gauche et la droite. Là, il est vraiment incliné sur un côté où on voit.
Vous êtes sûr qu'il est signé de Zurbaran, que
oui,
c'est
oui,
pas
oui,
un.
Oui, oui.
Ah oui.
Alors justement, je me demandais en quelle année celui-ci a été en 1627, et je me demandais si celui-là est postérieur ou pas, parce que ça correspond plus à ce qu'on a vu de voir, et ça pourrait être plutôt après qu'il a fait, quand on quitte la période de Dolorosa pour passer à une période plus
longtrice. Mais c'est étonnant parce que vous voyez. C'est rare.
Moi, c'est le pagne que vous appelez barboteuse. Hein.
Alors, il y en a d'autres. Il n'y a pas le sein de pan, pas comme ça.
D'accord.
C'est vraiment, c'est là, on a l'impression du drap. En fait,
oui, il y a des draps qui ont.
Alors que sur les autres, c'est vraiment la barboteuse.
Et là, ce qui est étonnant, c'est cette parfaite symétrie entre la gauche et la droite.
Oui.
Et là, on voit bien le corps très musclé, encore plus que sur celui qui est.
Oui. Mais la symétrie, quand on regarde la symétrie, là, elle est parfaite, en fait. Et il faut vous dire que en peinture, la symétrie et la géométrie font l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie sans symétrie, hein, souvent, enfin, à cette époque-là. Regardez, si on prend là le bras, le pied, on a un triangle, on a l'autre triangle, l'autre triangle, on a un autre ici, un autre là, et tout le corps lui-même est marqué par le triangle. Et on sait bien que dans la représentation picturale, dans l'art sacré, le triangle, c'est le symbole de Dieu, de la Trinité de Dieu. Alors je ne dis pas que là c'est la forme du corps qui nous livre ça, mais il y a une vraie symétrie, et c'est vrai qu'il y a une vraie opposition entre la musculature de ce Jésus crucifié et puis la faiblesse et la mort.
Il est quand même particulièrement émacié, hein, celui-là.
Ah, vous trouvez?
Ah oui, vous avez le thorax, il est tout petit. Il a la largeur des hanches.
Oui, mais enfin, faut imaginer qu'il a étouffé, enfin qu'il est en main, et donc l'air est remonté du diaphragme. Enfin, j'imagine.
J'ai quand même de propre à toute représentation de la crucifixion, et même si on peut évoquer la Trinité, c'est quand même l'image terrible d'un homme nu.
Oui.
les bras ouverts, c'est un signe de faiblesse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se défendre.
Non, et puis il est cloué.
Il est cloué.
Ouais.
Et au cours de la présentation, de me supprimer cette image assez terrifiante.
Oh, tout à fait.
D'un homme vaincu.
Oui.
Abandonné, livré.
Oui, oui.
Et même si on ne voit pas le visage, je ne crois pas. Enfin, je respecte le chasseur Baron, mais on ne peut pas supprimer ça.
Non. Non, je suis d'accord. Non, non, c'est impossible. Il est évident que quand on regarde le Christ en croix, on regarde tout ce que vous avez dit à la fois, hein, là. L'humiliation, la douleur, la mort.
La puissance, la livraison.
Oui, oui. Et en même temps, il y a quelque chose de puissant dans ce corps-là, dans cette idée d'élévation, le fait qu'il n'y ait pas, qu'on voit que le corps et pas la croix.
Et puis il remplit toute la toile, en fait.
Il remplit toute la toile, oui, c'est vrai.
Et puis il y a la lumière aussi, quand même.
Oui.
Ça donne une image plutôt. On voit, moi, ce qui me frappe, c'est la lumière.
La lumière, oui. Ouais, ouais,
le contraste, là-bas.
Oui, oui.
Il a déjà un corps là-dessus lumineux.
Oui, c'est vrai. Oui.
Donc, c'est vrai.
Oui, tout à fait.
La crucifixion était un mode de mise à mort qui était pratiqué chez les Juifs.
Chez les Romains.
Chez les Romains.
Ah oui, c'était vraiment le supplice des Romains, oui.
Les Romains qui ont inventé ça.
Ah oui. Ah oui, c'est vraiment le supplice des Romains, ça c'est vraiment...
Oui, Spartacus, c'est la
galerie de Spartacus. Ça c'est vraiment très bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ce que vous n'ayez déjà dit, hein. Alors, mais vraiment, je vous recommande, enfin, si vous avez un voyage à Séville. Et il y a une autre, c'est au musée de Cadix aussi. Il est très beau ce musée-là. Hein. Le musée Cadix, c'est que des galeries comme ça, vous savez, comme si c'était des coursives en rectangle comme ça, et tous les tableaux sont comme ça. Et il y a une salle Zurbarane, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Voilà. Si vous avez un voyage prévu
en Andalousie,
voilà. Est-ce que vous êtes pressé ou pas? Est-ce que je peux terminer la conclusion? Parce qu'il se trouve que j'ai pas cours. J'ai pas cours, je ne suis pas pressée comme les autres fois. Donc comme ça, on peut terminer. Donc la conclusion de notre séance. Est-ce que j'ai fait du...
Vous voulez bien enregistrer aussi, s'il vous plaît?
Oui, ça enregistre là. Donc la souffrance et l'obéissance de Jésus... C'est une conclusion en forme de question. Hein. La souffrance et l'obéissance de Jésus, quelle perspective pour l'homme? Parce qu'on pourrait se dire, ben, qu'est-ce que cela représente? C'est quoi la perspective pour nous? Mais on en a déjà un petit peu parlé avec vos questions. Qu'est-ce que l'obéissance et la souffrance du Christ impliquent comme perspective pour l'homme? Et à quelle obéissance ou à quel abandon l'homme est-il invité au regard de la croix et de la souffrance du Fils? Alors peut-être d'abord on pourrait dire que le Fils ne s'abandonne pas à la souffrance. Jésus s'abandonne à l'amour du Père sur la croix. Il est sur la croix, il ne s'abandonne pas, alors il souffre, mais il ne s'abandonne pas à la souffrance, il s'abandonne à l'amour du Père. Et on l'a déjà évoqué, ce n'est pas la souffrance qui va sauver Jésus. La souffrance n'a jamais sauvé personne. Le Christ accepte sa mort, il assume la souffrance, et en faisant cela, il nous montre un chemin de confiance. Alors bon, vous voyez, ça, les mots, ça nous interpelle aussi en disant ça. C'est la résurrection, c'est par la résurrection que nous sommes sauvés. On pourrait même dire que la résurrection nous sauve du drame humain de la mort, en fait. S'il n'y avait pas eu la résurrection, le drame humain de la mort serait persistant, actuel. Mais c'est l'amour du Père qui sauve le Fils, ce n'est pas la souffrance qui le sauve. D'où cette difficulté ou à tenir les deux lorsque l'on contemple la croix, contempler et aussi se laisser emparer par la compassion que nous pouvons ressentir à la vue du Christ souffrant, tout en ayant et en tenant le versant de l'espérance qu'apporte la résurrection à la suite de la mort et de la crucifixion et de la mort de Jésus. Donc tous les hommes sont appelés à vivre ce mystère rédempteur dans et par la foi en la résurrection, en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est la source de notre espérance. Et même si la mort du Fils sur la croix a posé dans l'histoire des hommes un hiatus, c'est-à-dire une rupture, et une rupture dans la continuité de l'histoire du salut, eh bien, nous devons tout de même tenir que cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus demeure l'événement d'un Dieu qui se donne totalement jusqu'au bout pour nous et qui accepte de se donner aussi de cette manière-là. La dernière chose que j'avais notée, c'est que la mort de Jésus, lorsque Jésus meurt sur la croix, eh bien, Dieu demeure inaccessible. Lorsque Jésus remet son esprit dans les mains du Père, à ce moment-là, le samedi saint, c'est 3 jours du Triduum Pascal jusqu'au matin de Pâques, Dieu le Père est inaccessible pour nous. Et c'est Balthazar qui nous dit cela, il nous dit, vous devez avoir le texte, quand le Fils, le Verbe du Père est mort, personne ne peut voir le Père, l'entendre, parvenir à lui. Et ce jour-là existe, où le Fils est mort et où par conséquent Dieu est inaccessible. Peut-être que vivant le mystère pascal, quand on vit ce moment-là, dans nos paroisses, avoir cela en tête à la mort de Jésus, cette inaccessibilité.
Le grand silence pendant 3 jours.
Ce silence, cette inaccessibilité, cette non-présence. Alors, la non-présence, ça ne veut pas dire l'absence. Voilà, mais quelque chose de le temps est suspendu à cette non-présence. Donc la résurrection, parce qu'il faut quand même arriver à la résurrection, va non seulement venir combler ce hiatus, va combler cette rupture, mais par elle, le Dieu sera à nouveau accessible. Vous voyez, la résurrection vient remettre en dynamique l'économie du salut que Dieu a mis en œuvre dès l'instant où il a parlé aux hommes. Dans l'Ancien Testament, par l'incarnation, la mort et la résurrection, puis l'ascension, mais en fait, je pense qu'il faut que j'aille directement à la Pentecôte. Ce moment où l'Esprit est redonné aux hommes, vous voyez, tout cela, ça fait partie de l'économie du salut. Et la résurrection est inscrite elle-même dans cette économie. Elle remet cette dynamique de salut à nouveau en route. La résurrection est alors la réponse divine à la condamnation humaine. Elle rétablit l'histoire du salut dans un temps qui est pour l'Église du Christ le temps eschatologique, c'est-à-dire un temps qui va rompre et qui rompt avec le temps chronologique que nous connaissons. C'est le temps de Dieu pour l'homme et le temps de l'homme en vue de Dieu. Et c'est pourquoi la prochaine fois, on continuera avec cette autre dimension du mystère pascal qui est la résurrection. Voilà. Thank you.